Il se trouve que je suis de ces métis improbables, du fait d'un père berbère à la peau assez claire. Je n'ai pas vécu, comme d'autres, le rejet du maghrébin au premier regard. Titulaire par ma mère d'un prénom français auquel je renonçais l'adolescence passée, pour mon prénom algérien typique mais non musulman, la situation ne changeait que quand il fallait écrire sur un formulaire le prénom du père, Mohamed, à la mairie, à l'école. Alors les regards étaient différents, pas forcément hostiles, mais toujours franchement différents. Malgré le temps passé, d'autres livres publiés, je constate combien je reste sensible à tout geste d'étiquetage. M'étais-je cru en cet endroit de l'écriture une décolorée sociale, une affranchie par les lettres ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Aligre FM 93.1. Mon invitée aujourd'hui est une écrivaine qui a fait de l'écriture un chemin de liberté, un chemin broussailleux, épineux, hérissé, qu'il a fallu nettoyer, débroussailler pour échapper, en étant parfois empêchée, aux assignations identitaires, aux étiquetages et finir d'écrire pour d'autres. Mais est-ce possible lorsqu'on est le fruit d'un métissage où l'amour et la haine se côtoient ?
De choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin.
Tassa Ditimaj, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Vous avez écrit un livre en 1989, publié aux éditions Kalman Levy, Une fille sans histoire. Un livre qui raconte votre histoire pourtant, mais à travers celle de Lee Lazar, la fille d'Ali et Huguette, qui se sont rencontrés à l'usine, lui immigré, algérien, ouvrier, en lutte pour la liberté des siens, mais marié à quelqu'un qui appartient à cette France coloniale. D'entrée, donc, ce livre, ce premier livre, manifestait une volonté chez vous d'explorer cette histoire complexe qui, au fond, ramène à une question cruellement d'actualité aujourd'hui, celle des identités, en montrant combien ce chemin pour trouver une forme de liberté et semée d'embûches pour tout un chacun, et particulièrement quand on est le fruit de deux histoires qui sont elles-mêmes à la confluence d'une histoire extrêmement violente, douloureuse, dure. Votre père, il faut le rappeler, avait lutté en 39 pour la libération de la France et ensuite pour celle de son pays. Ce premier livre a été suivi de nombreux autres, vous revenez, vous réarpentez un peu ces chemins, mais très différemment. Et aujourd'hui, les éditions Hors d'Atteinte, qu'on apprécie particulièrement ici, republient donc Une fille sans histoire, mais aussi un très beau livre assez paradoxal, Fini d'écrire, et enfin votre dernier ouvrage, Le voyage empêché. Ces trois ouvrages dont nous allons parler ce matin me semblent être au fond un ouvrage unique, presque, hein, est-ce que c'est pour vous le chemin vers une forme d'écriture apaisée ?
Oui, exactement. Exactement, avec Le voyage empêché, où écrire, pour moi, a toujours nourri mon désir de vivre aussi. C'est quand j'écris que écrire me fait penser. Et je trouve que votre regard, effectivement, de relier... Tous mes livres sont reliés entre eux. Donc, oui, finalement, je dis finalement parce que j'étais assez ambivalente. Je suis vraiment reconnaissante aux éditions Hors d'Atteinte d'avoir republié Une fille sans histoire. Ambivalente parce que, moi-même en le relisant, tout était là. Tout est intact. Alors, bon, rappeliez en début d'émission que dans le contexte actuel, ce livre résonne encore plus fort. En tout cas, ce sont aussi de jeunes lecteurs hein, qui me l'indiquent. Oui, il y a ce premier roman m'a permis de travailler, de continuer à écrire, de construire mon propre univers, de forger ma propre langue. Mais il est vrai que de livre en livre, mais c'est seulement au bout de ce parcours que j'arrive à le comprendre vraiment. Tout mon travail est quand même hanté par cette histoire originelle, qui est mon histoire, mais qui est celle aussi, j'ai envie de dire, de beaucoup de... Est-ce qu'on peut encore dire compatriote ? De compatriote, parce que cette histoire de la guerre d'Algérie, bon, même si c'est abordé hein, dans Une fille sans histoire, oui. Au plus près de l'enfance, en fait, hein, de l'enfance, effectivement, moi, je suis née pendant la guerre d'Algérie, et je me suis dit encore aujourd'hui, se situer passe par... Oui, je suis née pendant la guerre d'Algérie en France, en banlieue parisienne. Et ce livre-là donne des visages, inscrit aussi des faits historiques. Mais on est au plus près, on est dans l'intime d'une famille. Et dans l'amour difficile, en fait, hein, toujours cette question de l'amour, est-ce que ce couple, d'un couple à cette époque, assez improbable, c'est-à-dire que ma mère française, la mère de Lille, hein, mon héroïne, le prix de cet amour et de ce couple, ça a été la solitude, le rejet des siens, et pour mon père... Pour moi, ça a été deux solitudes. Et on appartient à cette génération, et je sais que je partage ça avec beaucoup d'auteurs français qui ont cette histoire au plus près, dans leur chair, de ressentir aujourd'hui une certaine peine, un certain chagrin pour nos parents. Hein, et je constate qu'il nous a fallu... On a un petit peu répété la même chose avec nos enfants, c'est-à-dire que c'est maintenant, moi j'ai des enfants qui ont entre 28 et 40 ans, et c'est seulement aujourd'hui que finalement je suis en capacité de leur parler, de leurs grands-parents. Moi j'ai choisi d'écrire Hein, parce que ce que vous indiquiez, il y a un parcours dans mon travail. Alors, il y a le parcours de l'auteur et puis il y a la vie des livres. Et c'est vrai que quand je choisis d'écrire, maintenant c'est tout à fait clair, je choisis cet espace-là parce que c'est un espace libre où je vais choisir mes mots et je vais les ajuster au plus près de la vie, de la réalité, du monde, mais aussi de ce que j'exprime et de ce que je veux transmettre aussi, avec plus ou moins de réussite.
Mais en tout
avec
cas,
les lecteurs.
Mais avec une vérité, une authenticité, un souci de justesse, qui passe aussi par la tentation du silence, de la halte. Un silence qui vous a aussi environné dans votre enfance, puisque c'est aussi le silence de ce père, parfois étranger à sa propre famille.
Qui devient étranger à sa propre famille.
Oui. Et c'est celui de Lille qui, dans cette famille, est celle qui part plusieurs fois, qui s'exile, qui d'une certaine façon... va dans d'autres espaces, cherche parfois d'autres espaces, et dans ces espaces-là, il y aura la rencontre avec les mots, la littérature,
c'est ça,
la liberté, une forme de liberté, déjà à ce moment-là ou pas encore.
Si, cette chance, enfin, dans un premier temps, dans l'enfance, c'est le mouvement de ma mère, en fait. Hein. C'est notre mère qui nous a, quand elle a ressenti Oui, enfin, pour elle, c'était... Bon, je le dis dans le livre, il y a eu... ça s'est passé comme ça. Ma mère n'était pas une intellectuelle. Mais à un moment, bon, dans cette cité bâtie sur les ruines du bidonville, à l'écart... Voilà, à Nanterre. Voilà, son instinct, son intuition, où c'était... Il faut qu'ils aient une rue à traverser, il faut... Et chaque étape a été, à chaque fois... C'était pas facile, ça a pu être douloureux, la séparation. Partir, quitter la famille, et pour un espace où elle nous a poussés vers le savoir, vers la culture. Elle a trouvé un lieu extraordinaire. J'ai eu beaucoup de chance. Je considère que j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu le théâtre, les livres, la musique. Avec des allers-retours... quand même dans la famille, tous mes livres sont traversés par ces sujets de la nécessité de tracer sa propre route, de construire sa vie et la pensée pour les siens et ceux qu'on laisse derrière. L'abandon, c'est vrai que c'est un sujet qui traverse beaucoup de la tentation, quoi. Je veux dire, comment à la fois une certaine culpabilité de s'en sortir, de construire sa vie et de choisir aussi sa vie, qui peut être tout à fait loin hein, de chacun, quoi, a pris des routes. La fratrie aussi, c'est un sujet que j'ai exploré dans beaucoup de mes livres. Comment, avec le même lieu de vie, la même enfance, des figures proches, chacun fait des choix différents, heureusement. Bon. Mais voilà, enfin, il y a...
Et la question qui se pose aussi de pour qui écrire, au nom de qui écrire, de la mère, du père pour lui redonner des mots, et finalement au nom de soi-même.
Il m'avait toujours semblé, parce que mon père, donc mon père algérien, kabyle, qui comprenait l'arabe, qui parlait arabe, n'est jamais allé à l'école, n'a jamais eu d'écriture. Voilà. Vous voyez, quand je convoque la figure de mon père et le silence de mon père, je me tais. Mais c'est vrai qu'on m'a posé cette question. D'ailleurs, je le rapporte dans un livre qui m'a laissé sans voix, en me demandant quel était ce lien qui existe entre les filles qui écrivent et leur père.
C'est une très belle question. Les filles qui écrivent leur père.
Et je me suis dit, mais moi, j'ai construit ma langue à moi. C'est ma langue à moi, ma langue d'écrivaine. Finalement, comme mon père qui a eu sa langue à lui, mais ma langue porte, dans mon écriture, c'est vrai qu'il y a, je creuse les silences, je veux rendre sensible, y compris ce qui n'est pas dit, les ellipses, et quand même à chaque fois, ce qui me fait beaucoup, qui me fait plaisir et qui me réconforte, c'est que les lecteurs... Il y a bien sûr des lecteurs de littérature, ceux qui ouvrent les livres, l'esprit ouvert aussi, qui s'identifient à vos personnages, qui sont touchés par et qui comprennent parfaitement ma langue d'humaine, qui la comprennent parfaitement, quels que soient certains obstacles, des choses qui pèsent sur votre travail et sur la lecture, et qui vient, ça m'a accompagnée dans mon travail, c'est-à-dire que j'ai un nom qui renvoie à une histoire lourde, une histoire difficile, douloureuse, et qui est loin d'être, qui a laissé des traces profondes dans notre pays.
Et ce n'est pas fini.
Et comment pourrait-il en être autrement ? Parce qu'il n'y a pas seulement les descendants d'immigrés algériens, de franco-algériens, tous les Français sont marqués par cette histoire. C'est-à-dire à un moment ou à un autre, dans un autre de mes romans.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Voilà, parce qu'il y a à la fois il y a des choses que j'ai vécues. Vous parliez de vérité. En fait, la vérité, elle vient de là. Non pas dans le fait de rendre compte. Bien évidemment, je ne rends pas forcément compte exactement. Je pense qu'on est... Alors, c'est peut-être notre héritage, j'ai envie de dire. Nous, les Français, qui avons cette histoire. On n'a pas le choix. Les autres, qui sont quand même les héritiers. Tous les autres, les Français, qui sont héritiers aussi de cette histoire-là.
Ben oui, c'est une histoire française.
C'est une histoire française. Donc, mais... Nous, on n'a pas le choix et il faut vivre constamment en étant interpellé. Il y a toujours cette histoire qui surgit à un moment. Voilà. Et donc moi, tous mes personnages, tous mes livres ne parlent pas de la guerre d'Algérie, mais de le fait d'être, avoir une mémoire familiale et de vivre dans un pays où l'histoire collective... vous pouvez être amené, on vous en fait comptable en permanence. C'est très difficile de il faut défendre, oui, ça, j'ai envie de dire presque, oui, sa liberté d'aller et venir, pour certains.
Oui, et cette liberté, c'est une liberté...
Et de création aussi.
De création, ouais. Mais de funambule aussi. Parfois, on sent dans vos écrits que vous êtes sur une ligne de crête, parce qu'il y a cette phrase dont vous parlez dans « Fini d'écrire, point d'exclamation ». Tu ne nous as pas désigné d'issue. Et ça. Il y a la tentation des fraternités qui rassurent, mais en même temps qui peuvent empêcher la liberté d'être soi, c'est-à-dire d'être ni soumise, finalement, de n'être soumise à aucune injonction, parce que il y a aussi celle du libraire et de cette... culture de la taxinomie, je ne sais pas comment dire, bien française, qui met votre premier livre dans la section littérature étrangère, arabe, moyen-orientale.
Et surtout, moi, ce que j'avais trouvé intéressant dans cet effilement histoire, c'est que c'est quelque chose que j'ai pris en pleine figure, finalement, dès le premier roman. C'est-à-dire que dans cet espace-là, de l'écriture, de la littérature... comme si le livre et comme si l'écriture avait pu échapper, comme si c'était cet endroit extraterritorial en dehors de l'histoire, et je parlais donc cette vie libre des livres normalement. Et je découvre, d'un seul coup, on me renvoie que je suis une étrangère, l'auteur est étrangère, et ce livre n'a pas une place naturelle dans la littérature française. Voilà. Et donc, c'est effectivement se préposer au rangement, mais qui est, voilà, je fais exprès de l'appeler préposé au rangement, parce que vous vous rappelez cette culture de l'étiquetage, quand même, dans notre pays, qui me dit, mais votre nom explique que le livre ait été rangé à Maghreb Proche-Orient. Et je lui fais remarquer que oui, ok, d'accord, à cause du nom. Regardez, c'est pas une traduction, c'est écrit en français, c'est pas une traduction. Oui, vous avez raison. Et je lui dis, vous voyez, Modiano, il n'est pas rangé en littérature italienne. Romain Gary, il a toute sa place en littérature française. Et là, il me dit, oui, mais quand même, vous, c'est-à-dire il n'a pas lu le livre, hein. Mais quand même, vous êtes d'une sensibilité particulière, vous. Mais de quelle sensibilité particulière on parle ? Et voilà, et je dis peut-être que le progrès, alors c'est un peu à la fois, bon c'est ironique ou pathétique, c'est que le progrès, est-ce que ça pourrait être qu'on reconnaisse, moi je veux tout à fait qu'on dise que j'ai une certaine sensibilité ou une sensibilité singulière, voilà. Vous êtes d'une sensibilité particulière, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas lu, on est, voilà. Et c'est bien le nom étranger d'un auteur français, mais non, algérien ou qui envoie au Maghreb, qui explique que y a quelque chose qui résiste, quoi. Donc ça, c'est... Après, évidemment, je ne suis pas restée dans ce saisissement, mais ça m'a quand même déjà donné à penser, n'est-ce pas ? Et puis après, j'ai continué à écrire, et régulièrement... régulièrement, j'ai dans des échanges, hein, dans des rencontres, avec des petites différences quand les gens avaient lu ou pas lu le livre. C'est-à-dire après, moi, j'étais pas renvoyée, j'étais pas un auteur qui a été renvoyé après à l'Algérie ou bon dans des critiques, les critiques littéraires qui ont pu écrire sur mes livres. Je ne peux pas dire qu'il y a eu après un étiquetage. Mais par contre, j'étais renvoyée au lieu où j'avais grandi. Donc, c'est plus l'Algérie, c'est ce nouveau là-bas, ce là-bas intérieur, qui est la banlieue, les quartiers populaires de banlieue. Et dès lors, sans même que vos interlocuteurs hein, sachent vraiment, parce qu'on n'arrive pas forcément en disant « j'ai grandi ». Donc bon. Pour eux, c'est une évidence que vous avez quelque chose à voir avec les quartiers populaires HLM de banlieue, de la, enfin bon, la banlieue parisienne. Voilà. Et donc, là aussi, immédiatement se mettent en place des représentations, des assignations. Et bon, comme j'ai dit, je vous en ai réduit à dire cette phrase vraiment simpliste et succincte. Écoutez, moi j'écris pour être lu. Lisez-moi, j'écris pour être lu. Effectivement, on vous interpelle tout le temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'en tant que citoyenne, on n'ait rien à dire, hein, mais très tôt. Dès les années 90, l'affaire du foulard, l'islam, la délinquance des jeunes, les violences urbaines, voilà. Et ça, je l'ai vu à l'œuvre avec les générations suivantes. C'est-à-dire que 20 ans après, 15 ans après, la jeune Faïza Guen, j'assiste à une rencontre dans une librairie à Paris, qui vient présenter, parler de son travail et présenter son livre, et j'entends les mêmes propos. Condescendant, idiot, c'est tout juste, ah oui, comme ça, alors, mais quelle idée, quoi, vous avez donc deux ou trois idées, vous avez écrit, quoi, vous êtes écrit, enfin, c'est, et je me dis, on est 15 ans, 20 ans après, et on a toujours affaire à la même chose,
il y a quelque chose qui... Oui, et c'est Faïza Guen, c'est très beau, qui a préfacé la réédition.
Ah, c'est une grande rencontre pour moi, Faïza. Et en fait, ça a été... Parce qu'en fait, on aurait dû se rencontrer depuis longtemps, puisqu'on a eu la même éditrice pour nos premiers romans. Mais ce n'est pas le cas. Isabelle Seguin, qui est vraiment décédée tôt, quoi, l'année 2012, qui a été une année très dure pour moi. Et on s'est rendu compte après que Faïza, pour elle aussi, pour toutes sortes de raisons, une espèce de convergence, on va dire, de beaucoup de choses... et qui tiennent aussi à l'état de quel impact de voir notre pays et ce pays, le mauvais fil là, qui est en train de se tisser. Et Faïza, pour moi, a été le signe de cette jeune génération qui a découvert en fait nos livres, hein, parce que je suis pas la seule écrivaine, hein, avec cet héritage-là, oui. Qui a commencé chacun à construire une œuvre, et il y a eu une évidence immédiatement Et qui m'a dit, mais c'est tellement important que ces livres-là aient pu être écrits, et voilà.
Grâce à elle, dit-elle, et elle, c'est vous, Tassa Ditimaj, j'ai compris que cette mélancolie ne m'appartient pas, mais que j'en suis l'héritière, et qu'au lieu de me laisser consumer par elle, il me fallait en faire quelque chose. Et il y a tout ce travail, effectivement, de l'écriture qui permet de transformer cette matière brute de nos existences pour en faire quelque chose. Je reviens sur la question de l'assignation. Il me semble que chez ce préposé au rangement, comme vous l'appelez joliment, il y a aussi au fond la manifestation, peut-être, je ne sais pas, je soumets cela à votre regard, d'une difficulté, d'un refus, d'un empêchement, pour reprendre un joli mot qui est dans votre titre du dernier livre que vous publiez, de regarder cette histoire-là, celle des quartiers populaires, celle de la colonisation, de la guerre d'Algérie, comme une seule et même histoire, au fond.
Je suis tout à fait d'accord. Comme c'est la leur. Enfin, et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est pour ça que c'était, si vous voulez, j'ai eu à faire, finalement, après, même si on est touché par des choses qui vous sont renvoyées, alors pas touché de façon narcissique, mais parce que, pour moi, ça indique tellement le regard qui est porté sur les miens. Et quand je dis les miens, voilà, moi, enfin, je veux dire, j'ai une proximité, même j'ai une proximité avec ces lieux-là, ces quartiers. Voilà, c'est quelque chose que ça m'a constitué. C'est là, dans mon travail. Mais en fait, j'ai compris qu'en face, c'était ce trouble de... Et donc, ils sont là, quoi. Ils sont là, dans des romans français. C'est une écrivaine française, et elle nous ramène cette histoire d'une manière ou d'une autre, et elle inscrit ces visages-là, ces existences-là. Et donc ça, c'est une réalité pour eux. Enfin, et c'est quelque chose qui suscite des, à la fois du trouble, pour certains un rejet, mais pour d'autres, je peux vous dire, en tout cas, c'est assez réconfortant. Cet effet-là, ce pouvoir-là de la littérature et des livres, c'est que je constate, je me dis, les livres sont là, et les jeunes générations, contrairement à ce qui se dit, se tournent à nouveau vers la littérature, vers les livres, et ouais, je trouve ça réconfortant par les temps qui courent.
Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans vos écrits, Tassa Ditimaj. C'est, en tout cas dans les trois dont nous parlons ce matin, il y a... alors, je ne sais pas s'il faut parler de revue, vous allez me dire, mais en tout cas, le choix de ne pas dire « je », de déléguer toujours l'histoire à « elle », »,« l'île » ou « elle ». Et cela, c'est très intéressant par rapport à notre fil depuis ce matin 10h, c'est cette question de l'identité et du singulier et de l'universel. Donc je me suis demandé d'où venait ce choix.
Dans ces trois livres-là.
Dans ces trois livres-là.
Voilà, parce que dans d'autres romans, les personnages disent « je ». Et c'est vrai que le « je » est très soutenu quand mes personnages sont dans leur intériorité, comme dans mon roman Presque un frère, où ce sont des voix, les voix de chaque personnage, en fait, qui parlent. Et dans Une fille sans histoire, c'est la forme de mon écriture, c'est peut-être ce que vous avez perçu, je pense, je crois. C'est une forme pensée, choisie, construite, et qui me permet, en tout cas c'est ce que je vise à réaliser, d'être au plus près de toutes les significations et du fait que l'identité, c'est quelque chose qui est mouvant, que dans Le voyage empêché, par exemple, ça amène pour moi le lecteur à se déplacer lui-même dans sa propre... C'est-à-dire qu'il y a ce moment où il regarde le personnage, c'est un personnage, et quand j'utilise le jeu, j'ai envie de dire, c'est la, le moyen pour moi d'entrer au plus près de l'intime et de, d'offrir cet endroit-là de l'écriture.
Aligre FM 93.1.
Je sais que, notamment dans le voyage en péché, il y a, c'est exigeant comme, comme forme d'écriture. Mais je me suis rendu compte que dans cette, voilà, j'ai certains lecteurs qui me disent à cet endroit-là, j'ai perdu pied, mais j'ai eu quand même envie de continuer parce que j'étais prise par la langue et de quelque chose que je, qui me parle, mais qui ne s'explicite pas directement. Ou voilà, mon écriture est faite de ça. Elle porte ça. Ces traces, peut-être, si vous voulez, de que c'est très difficile pour moi de concevoir une histoire qui ne soit pas déchirée à certains endroits. Et l'histoire est au plus près et vraie quand elle rend compte de cette texture-là. Et je pense que c'est ce qui m'a fait écrire. Et c'est cette joie que d'écrire que j'ai de plus en plus et qui est perceptible peut-être dans la de voyage en péché, parce que je sais pas, peut-être vous vouliez pas que je parle tout de suite du voyage en péché,
allez-y, je vous en
mais
prie,
comme
je
vous avez tout à fait identifié entre les trois livres et surtout puisque fini d'écrire cet essai où je reviens à la source, c'est-à-dire que c'est vrai que la première partie de fini d'écrire c'était déjà un arrêt qui avait eu lieu dans mon travail, hein, mais qui remonte aux années en 2000, hein, en 2001, où je m'arrête parce que je suis obligée de me questionner sur le fait que je me retrouve toujours aux prises avec ces questions de l'identité, du politique, de la banlieue. Et alors que moi, je veux qu'on me laisse tranquille et qu'on me laisse travailler, écrire tranquille. Mais c'est impossible parce que toute mon écriture
est en prise le monde.
C'est pour ça que je dis souvent, pour être le plus sincère, ce sont mes personnages qui m'ont engagée. Ce sont mes personnages qui m'ont engagée. Et surtout, à partir du roman Presque un frère, où le lecteur identifie un lieu, même si je lui ai donné un nom, c'est un lieu emblématique d'un quartier populaire de banlieue, mais je ne parle pas de... Bon, et j'ai appelé ça les terrains. Et en plus, on est au plus près des personnages, de l'intérieur des personnages qui voilà. Et justement, cette intériorité-là, qui est allée chercher le lecteur et qui a montré à quel point ils sont proches, hein, les Noureddin, Sabrina, chers lecteurs. Oui, ils te ressemblent beaucoup parce qu'ils sont aux prises avec ces questions existentielles qui nous traversent tous. Quitter la famille, partir, s'arracher aux siens, c'est difficile. C'est difficile de se construire, c'est difficile d'aimer. Et je me méfie des sentiments. Voilà, il y a cette espèce d'économie des sentiments et de cette peur aussi des mots. Parce que quand votre réalité, c'est que toute votre enfance et votre adolescence, et là, je ne parle pas que de moi ou moi, hein, je parle des jeunes, hein, aujourd'hui, et assailli par les mots des autres et les regards des autres qui ne sont pas du tout bienveillants et qui ne vous laissent pas vous construire avec vos... Eh bien oui, quelquefois, des espèces d'épisodes un peu caricaturaux, d'échapper, de, voilà, parce que c'est difficile de se construire dans cette société, dans ce pays aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai peut-être beaucoup bifurqué.
Non, mais pas du tout. C'est passionnant,
voilà.
De vous
Alors,
écouter. Effectivement,
je disais,
par
rapport à Fini d'écrire, oui. Donc j'avais commencé cette réflexion dans les années 2000. Ça avait été publié dans la revue Esprit en 2001. Oui. Et j'ai poursuivi cette réflexion en y intégrant, pour moi, ce deuxième coup de semonce. Et alors là, beaucoup plus conséquent, puisqu'effectivement... il vient résumer une certaine réception de mon travail ou m'est renvoyé le fait que on me dit de livre en livre tous tes personnages, toute ton œuvre traite du malaise identitaire du pays malade de son histoire coloniale migratoire, et on ne voit pas que tu nous proposes d'issue. Voilà. Bon, avec, et c'est quelque chose qui, pour moi, il y a quelque chose de très fort là, et qui me saisit, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, à quoi tu nous sers là? Pourquoi, et pourquoi attend-on de ces écrivains-là, parce que je ne suis pas la seule Française avec cette histoire-là, pourquoi attend-on de régler les problèmes, les tensions sociales, les problèmes sociaux, c'est-à-dire, de nouveau, tu n'es pas libre. Tu n'es pas. La littérature est un espace de liberté, d'expression, de création, mais toi, tu as des devoirs. Et ton univers qui vient troubler, appuyer sur des endroits qui font mal, sur des choses dont on n'a pas du tout envie qu'elles soient là, à hanter avec tes personnages, tu ramènes toujours, voilà. Mais... alors qu'on attend d'avoir... Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on attend d'avoir des écrivains qui soient des médiateurs, des pédagogues, des... Ben non, c'est pas mon travail, ça l'a jamais été. Ce qui veut pas dire qu'en tant que citoyenne, bien sûr que je pense des choses. Et que... Voilà.
Alors, Tassadit Image, vous parliez de votre dernier livre, Le Voyage empêché. Finalement, ce livre, c'est celui aussi d'un choix radicalement différent, de se retirer de la ville et de vivre au plus près de la nature, de sa permanence, finalement, d'échapper à cette temporalité de l'histoire et de la marche fracassante du monde, avec comme horizon, comme un tiers-lieu qui serait la Grèce, où vous retrouvez les figuiers et les oliviers du pays de votre père.
Voilà. D'ailleurs, j'aime beaucoup la couverture du livre que je vous ai montré, où on voit... Ben, en fait, il y a la Grèce, mais il y a aussi les rivages de l'Afrique et du Maghreb, de l'autre côté, hein, d'être pris entre ces deux pays. C'est-à-dire, ce que le livre... Effectivement, ce livre, c'est... Et on verra la suite, j'ai envie de dire, parce que l'écriture, je la vis, elle construit ma vie aussi. C'est le livre de la reprise, où je recommence à écrire, mais écrire avec, par rapport à toutes ces thématiques de l'identité, c'est-à-dire, je crois qu'il y a tout, j'ai toujours essayé, est-ce que c'est possible de laisser derrière soi l'histoire? Et est-ce que le livre, là aussi, entre la partie qui est écrite, à la première personne, le jeu, les personnages de Fatih et Mimi, puis je reviens, bon voilà, il y a, c'est de garder ma liberté, quoi, d'être. Là aussi, j'ai envie de dire d'aller et venir, parce que le voyage empêché, c'est aussi un voyage intérieur, c'est-à-dire à l'âge que j'ai aujourd'hui, à ce moment-là de mon parcours, mais mon parcours d'écrivaine, parce que c'est toujours là, c'est à nouveau m'échapper. Sortir, est-ce que c'est possible d'échapper? Je déteste ce thème des thématiques. des thématiques. Mais est-ce qu'on peut mettre. Voilà, ce. Et c'est se séparer de soi. Et c'est se séparer de soi. Est-ce que c'est possible de partir à nouveau? Alors, est-ce que quand même d'avoir un parent qui. Immigré, qui s'est aussi arraché à son pays, à sa langue, au sien? Et avec ma mère française, et je suis française, pas seulement parce que j'ai une mère française, hein, n'est-ce pas, pour le moment encore, c'est bien, hein, pour le moment, on est français parce qu'on est né en France, bon,
pour le moment.
Et qu'on y a grandi.
J'entends le pour le moment.
Voilà, mais ça y est, voyez, c'est la première fois que je perds le fil, hein, mais voilà, quand je dis des choses un peu trop fortes et...
En tout cas, il y a... Oui, alors tout à l'heure, je me suis trompée. Effectivement, je parlais de l'absence du jeu, mais il est bien présent, effectivement, dans ce voyage empêché. Oui, j'ai trouvé mon village kabyle, voilà, au flanc de la montagne grecque. Oui, je veux mes 4 ou 5 pierres, avec ou sans mon nom, dans le petit cimetière de Hora, si les Grecs ne s'y opposent pas. Après tout,
Je ne suis la descendante d'aucune guerre de Troie, le rejeton d'aucun conflit familial, local, inextricable, avec croisée des routes mythiques fatales. Vraiment ? Il y a toujours ce doute qui se glisse. Hein. Vous n'avez pas ouvert ici un livre des morts passés et à venir. De l'amour surgira peut-être comme une porte dérobée s'ouvre au fond de l'impasse moins rapidement que dans une série Netflix au timing millimétré. C'est juré, nous en avons besoin, vous et moi. « All you need is love » redonnait à la fin de sa vie un analyste de mes amis plutôt fatigué à ses patients. Je voulais faire entendre un extrait de ce voyage empêché parce que je parlais d'une écriture apaisée. On la sent dans cette amplitude des phrases qui contraste avec l'écriture de vos débuts, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus accidentée, appliquée aussi à reproduire ce que lit l'enfant, entend aussi des parlers locaux et du racisme ordinaire qu'il laisse parfois échapper. Il y a bien là un apaisement qui est passé d'ailleurs par le confinement. C'est pas anodin ce grand confinement dont vous parlez dans
voilà. Alors c'est un livre qui avait notamment les toutes premières pages en fait que j'ai écrit qui était déjà là et que j'avais commencé avant le confinement parce que j'avais cette question de quitter mon pays hein, d'aller vivre ailleurs hein.
Cette question
et il y a toujours eu ces deux pays. Il y a eu le pays de mon père. Où je suis allée tard, hein, à 30 ans. Où je suis allée en 88, puis en 90, et puis dernièrement là. Mais il y a toujours eu la Grèce aussi, parce que c'est le pays qui me sauve et même qui nous sauve, dans la famille, nous, mon frère, mes sœurs. C'est l'été de la mort de notre père. Et cette langue grecque, elle s'est chargée dans sa beauté naturelle, dans sa langue, hein, la beauté de cette langue, mais aussi dans immédiatement une espèce d'identification, de reconnaissance. Finalement, notre Algérie et le pays de notre père, on l'a trouvé en Grèce dans un premier temps. Et je me souviens que la première fois que je suis allée en Algérie, donc beaucoup plus tard, j'avais une inquiétude, je me suis dit pourvu que l'Algérie soit aussi belle que la Grèce. J'avais très peur que l'Algérie, que le pays de mon père, soit moins beau. Et ça n'a pas été du tout le cas. C'était aussi un émerveillement. Mais cette langue grecque, et la Grèce, ce pays, ça a été ce pays. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous ont pu avoir cette expérience-là dans leur vie et dans leur parcours. Moi, j'ai cherché un autre pays. J'ai cherché un pays où je pourrais être, moi peut-être, vraiment toutes et loin de l'histoire peut-être, mais dans les choix et de ressentir aussi ce que c'est que d'être étranger dans un autre pays. Ça, j'ai souvenir, j'ai vécu aussi plusieurs mois à Athènes, et c'est là, je me souviens avoir ressenti, avant que j'apprenne le grec, que je ne connaissais pas la langue du pays dans lequel j'étais, et j'étais une étrangère. Et ça, il y a beaucoup de choses que j'ai compris en vivant à l'étranger, en ayant quitté la France. Et j'ai été aussi regardée comme une Française, en vivant totalement une Française à l'étranger. Alors, vous voyez mon aspect physique. On n'a jamais... mon identité algérienne n'est pas, à part les cheveux, par le nom, et puis par ce que je suis, par tout ce que je suis. Quoi. En tout cas, quand vous vivez à l'étranger, vous voyez, Tassa Ditimash, c'est une Française. Oui, il n'y a aucun problème.
C'est finalement voyager pour se retrouver,
fond. Je n'ai pas fait pour ça, mais j'ai vécu ça. J'ai expérimenté cela. Et la liberté, quoi. La liberté d'être, de ne pas être tout le temps questionnée sur cette identité qui semble... qui n'en finit pas d'être problématique pour notre pays. Vous voyez ça ?
Et qui ne l'est pas pour
nous. Et qui ne l'est pas, parce qu'en réalité, ce qui est effrayant, c'est... on va sortir peut-être de notre cadre d'échange, mais les irresponsables politiques et les médias ont fabriqué Oui, un état des lieux, enfin un état des lieux qui n'a rien à voir avec la réalité et la vérité de ce que les gens vivent entre eux. Et, voilà. Sauf que, voilà, enfin bon, avec toutes ces chaînes de télé, d'infos permanentes, là je le vois maintenant que je vis, parce qu'on parlait de la nature, hein, du voyage empêché. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas imaginé, et j'ai voulu faire partager ça aussi, c'est-à-dire que je quitte la ville. Le personnage, les personnages quittent la ville, et le titre initial, j'aime bien le rappeler, du voyage empêché. Le voyage empêché, c'était le titre, entre parenthèses, qui finalement est devenu le titre du livre. Mais le titre, c'était « Disparaître dans un beau paysage ».
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, je comprends, parce que mon éditrice avait un petit peu peur. Bon, je comprends tout à fait son temps. Elle disait, mais ça va trop résonner mélancolique. Alors, elle m'a dit, Tassadi, tu as déjà fini d'écrire et maintenant, tu nous disparais dans le paysage. Bon, mais non, pas pour moi. Parce que disparaître dans un beau paysage, c'est comme une sorte de mantra existentiel. C'est-à-dire que vous parliez de rechercher un apaisement, rechercher... Bon, oui, il y a ce saisissement de la beauté de la nature, des arbres, et de, voilà. Mais attention, enfin attention, je veux dire que les humains ont continué à m'intéresser, et ont continué à m'intéresser là où je suis, et je fais des allers-retours, je reviens souvent sur mon territoire natal, la banlieue parisienne et Paris. Mais j'avais envie de faire partager ce décentrement et de voir, de renourrir aussi, ça c'est une évidence. Et j'espère, hein, j'étais contente quand on m'a dit, mais on sourit beaucoup aussi, oui. On rit, il y a de l'ironie, oui. Voilà. C'est le livre de la reprise du désir du goût de vivre, hein, du goût d'écrire, du goût de vivre, voilà.
Et Tassadi Timache, il y a dans ce voyage empêché un lieu qui m'a semblé particulièrement intéressant parce que c'est un lieu sans histoire. Alors, il y a la nature qui est sans histoire et il y a cette préhistoire où les hommes ne se représentent pas encore eux-mêmes. Vous parliez du rôle de la représentation dans nos sociétés saturées de mots et d'images qui ne sont pas forcément conformes à la réalité, mais qui génèrent des fantasmes et qui finissent par fabriquer des réalités qu'on redoute. Et Dieu sait si nous y sommes. Mais effectivement, ce moment très fort de la rencontre avec un scientifique...
Un conférencier préhistorien, oui, qui rappelle... Donc, dans l'évolution de l'homme, hein, donc c'est nous appartenons encore à ce qu'on appelle l'homme anatomiquement moderne. Et puis, la figure du Néandertal, qui pendant des années, il y a encore pas si longtemps, hein, quand on, voilà, y compris parmi les scientifiques, hein, où les préjugés, les scientifiques ne sont pas dépourvus de préjugés, ce Néandertal était considéré comme... décroché de la chaîne de l'évolution comme une espèce de primate humain, ce qui était bien commode parce que nous représenterions, oui, moi je l'appelle, enfin pour avec je l'appelle le chouchou autoproclamé, quoi, l'homme anatomiquement moderne. Finalement, qui serait le plus évolué, peut-être le moins féroce, alors qu'en réalité, c'est de nouveau ce besoin de hiérarchiser, d'étiqueter, et voilà, auquel n'échappe pas. Et donc, cette conférence, c'est une conférence, en fait, à laquelle j'ai assisté, qui est extraordinaire.
Il y a aussi, je me permets d'insister, ouais, à cette image, cette idée de la non-représentation de soi, qui est aussi, au fond, une manière de se dérober...
Et que l'on reconnaît, en fait.
C'est ça.
Parce que ce que je raconte, c'est que mon personnage, on a beau aller vouloir disparaître dans un beau paysage, les mots continuent à résonner, le monde est là, vos congénères sont là, et vous n'êtes pas sans mémoire et sans conscience.
Bien sûr.
Donc tout ça résonne et significatif.
Et l'actualité est bien là, puisque on vous accueille en vous disant « Ah, vous avez voulu fuir ces migrants qui arrivent dans les villes. »
C'est ça. Vous êtes parisienne et vous avez fui tous ces migrants. C'est pour ça que vous êtes venue chez nous. Voilà. Alors ça, c'était... Non, mais là, c'est pour ça que j'ai mis en exergue du Voyage empêché un écrivain, un poète grec que j'aime beaucoup, qui est Constantin Cavafy, dans un poème qui s'appelle La Ville et qui dit, qui nous met en garde, tu ne trouveras pas de nouveaux pays, tu ne découvriras pas de nouveaux rivages. En fait, en Grèce, c'est Zen Savris Ales Salases, c'est-à-dire tu ne découvriras pas d'autres mers, d'autres océans. Voilà. Oui, ben, la vie nous suit, quoi. La vie, le monde, la société. Et je n'ai pas l'intention de me faire ermite non plus. Donc, je suis toujours curieuse de mes congénères et de mes compatriotes. Et je reste aussi éveillée. Mais c'est vrai. On a besoin, j'ai envie de dire, on a pris tellement de coups. Je ne parle pas que moi. On a pris tellement de coups toutes ces dernières années. On a quand même eu droit à un ministère de l'identité nationale. Où je me suis dit, mais mon pays devient dingue, ils sont fous. Qu'est-ce que c'est que ce... Voilà. On s'est pris, alors quand je dis on, parce que... et les jeunes générations, parce qu'après tout, moi, je peux disparaître dans un beau paysage. Mais... voilà.
Alors, Tassa Ditima, je voudrais quand même qu'on revienne sur un point très important pour moi dans vos écrits. C'est la question, et on n'est pas loin des débats contemporains, même si je n'attends pas ici que vous nous donniez des issues à voir, mais il y a quelque chose autour de la reconquête du nom qui est très intéressant à l'heure où on entend beaucoup parler d'assimilation et où ça passe par des polémiques autour de la nomination des enfants qu'on désigne comme issus de l'immigration. Votre personnage, je reviens au premier roman, Lille, a un demi-prénom. Elle est fragmentée, son identité est fragmentaire et finalement vous-même vous avez choisi lorsque votre père est décédé de reprendre un prénom qu'il avait donné et que votre mère avait, j'ai trouvé ça très beau, effacé au crayon par peur, au fond, de vous voir rejeté au banc de la société.
Oui.
C'est très beau, parce que je trouve que cette histoire-là, qui vous est propre, concentre beaucoup de nos interrogations contemporaines et rappelle aussi à ceux pour qui tout semble si simple, la complexité de vivre à l'échelle individuelle ces histoires-là.
Oui.
Alors aujourd'hui, le nom, il est important pour vous ?
Oui.
Ce nom ?
Et je pense qu'il ne faut pas lâcher.
Mais quel
regard ? Même si c'est de nouveau, parce que vous... Mes trois enfants, leur père est français, donc moi je suis française, mère française, père algérien, je suis française. Mes trois enfants ont un prénom, ça me semblait pour moi important. Il reste ça, ce lien, de cette identité-là. Et ils ont trois prénoms, Taos, Elias, Meriem, qui tient le fil. Faut ce fil-là, et qui est, j'ai envie de dire, qui est là, disponible, et qui sont libres de l'habiter comme ils veulent. Et de... Bon, j'ai constaté, comme ma mère, on est des fois assez dur avec nos mères, mais finalement quand soi-même on devient parent, mère, je vous avoue que ça m'a traversé l'esprit. Je me dis, vu l'évolution de mon pays et de société, est-ce que j'ai bien fait de leur donner. Est-ce qu'ils ne seraient pas plus tranquilles? Est-ce qu'ils ne pourraient pas avancer? Est-ce que je ne leur ai pas... je ne les ai pas exposés de nouveau à des quiproquos, à des malentendus, à l'obligation de dire « oui, je porte ce prénom parce que... » voilà. Alors que les autres vont et viennent avec leur prénom et avec leur nom. Sauf que pour moi, ce sont des prénoms de notre pays. Il va bien falloir qu'ils le voient enfin. Et j'ai toujours... Le prénom, c'est comme pour chacun, pour chaque famille, pour chaque parent. C'est un choix affectif. Affectif, symbolique, et il faudrait... Quelle est cette illusion, ce leurre de croire que on peut tout enterrer, détruire, effacer? Non, le nom est là, et voilà. Et c'est vrai que c'était une évidence pour moi, même si à un moment on m'a posé la question, pour mon premier roman, tu aurais pu choisir un pseudonyme. Et c'était tellement un contresens. Pour moi, ça aurait été de la folie totale par rapport à l'histoire, ce que je raconte dans Une fille sans histoire avec Lily, Liliane, Lila. Mmh, mmh. Mais non. Voilà, c'est la question du nom, la question du prénom aussi. C'est vrai que mes personnages... mes personnages se livrent à un trafic d'identité, oui. C'est-à-dire que Eddie, le copain Eddie des terrains, l'ami d'enfance, c'est Noureddine, hein, c'est pas Eddie, mais Eddie, ou voilà, les Sabrina, parce que c'est vrai que dans notre pays, il vaut mieux s'appeler Sabrina que Fatima. Vous voyez, tous ces... Et qui sont le propre de l'humain, en fait, hein, qui a besoin à la fois... de garder, voilà, comment sauvegarder, protéger ce qu'on est, notre identité, et à la fois, voilà, l'identité, elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée, et chacun fait ça, voilà. On invente des choses et on s'invente en partie dans nos vies, dans nos choix et donc, mais on est des personnes vivantes, hein, la chair et voilà.
Et puis il y a ce rapport à l'écriture, Tassa Dit Image, qui est souvent évoqué dans vos écrits. Je pense à cette rencontre que vous rapportez dans Fini d'écrire avec Kateb Yassine, que vous rencontrez en 1988. Alors, Kateb Yassine,
peu de temps avant sa mort.
Immense écrivain algérien. Et il y a cette promenade, comme ça, du côté de Sainte-Anne, je crois, de la Santé, où vous lui dites, il y a des fois où je n'arrive pas, je n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'il vous répond?
Et il me dit, mais sors, va au milieu des gens, vis avec les autres, marche, avance. Et tu verras, rentre, les mots sont là.
Et c'est vrai.
Mais c'est vrai. Et là, je suis dans... Oui, marcher, être, en fait, se mouvoir, bouger. Et oui, c'est quelque chose qui est dans mon écriture. C'est une tension vitale, ça, voilà, dont j'ai besoin. Et d'ailleurs, c'est allé même encore plus loin, parce qu'il me dit « sors ». Et là, quand je dis « le voyage en PC, je vais disparaître dans un beau paysage, je vais vivre dans la nature, je ne veux plus entendre que les oiseaux, j'éteins la radio, je veux plus, taisez-vous, quoi, foutez-nous la paix ». Et c'est les oiseaux, et c'est les arbres, et voilà. Non. C'est-à-dire que je crois que nos parents nous ont transmis ça dans leur expérience de vie difficile, dure. C'est aussi le... Ça, j'en suis sûre, parce que je le vérifie autour de moi, sur certains de notre génération, et puis je vois dans ma famille, mon frère, mes sœurs. C'est quand même le souci des autres. Le souci des autres, voilà, moi, et ça vient de ma mère aussi, hein, de ma mère française, hein, c'est pas possible, quoi, d'aller se mettre sous la couette et de dire ou de
renoncer.
Que vont-ils devenir ? Oui, et puis les autres, de renoncer. Et puis aussi, j'aime la solitude, j'en ai besoin pour écrire. C'est vrai qu'on a été tellement harcelés par l'actualité que c'est devenu plus en plus difficile de travailler tranquillement et d'écrire tranquillement.
Il y a un besoin de silence.
Et de silence. Mais là, je ne vous cache pas, avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je me dis il faut que je revienne ici quand même plus souvent et que... Ça ne veut pas dire que dans les Cambrousses, il ne se passe rien, hein, parce que justement, moi, j'ai vu, hein, on a vu comment on vote, comment ils votent, mais... Enfin, voilà, il faut rester vivant, j'ai envie de dire. Moi, mon écriture, j'ai pu décontenancer certains dans Le Voyage empêché, parce que s'ils se sont dit, ah ben, elle se fait la belle, quoi. Elle nous laisse. Enfin,
elle nous abandonne.
Et puis elle nous abandonne et elle est là, elle est en train de jouir des beautés de l'intérieur. Mais en fait, je pense que dans le livre, c'est...
Il y a un regard sur... la ville n'est pas loin.
Voilà, et je suis toujours la même, et avec mon petit bagage sur le dos, et voilà, et voilà.
Merci beaucoup d'être venu ce
et surtout,
matin.
Merci pour votre lecture de mon travail.
Tassa Ditimache, d'être venu ce matin nous parler plus particulièrement de trois livres. Le premier, c'est Une fille sans histoire, publié à nouveau aux éditions Hors d'atteinte, avec une préface de Faïza Guen. Ensuite, Fini d'écrire, et puis le dernier. Le voyage empêché. Vous nous livrez là un très beau livre, un objet littéraire non identifiable, puisqu'on parlait beaucoup d'identité et d'assignation. Donc pour les lecteurs qui aiment la liberté de lire et de trouver soi-même sa place sans injonction dans cette lecture, ben, c'est une très belle lecture. J'espère que vous reviendrez nous voir dans ce studio pour prolonger cette conversation. Merci à Enrico Mastro Giovanni qui était ce matin à la technique. On va se quitter avec Rachita.
Ça,
c'est pas mal quand
même.
Et
merci aussi pour la première, je cherche son nom, que j'aime beaucoup, la première chanson qui était au début
oui,
de l'émission.
Mon ami la Rose. Oui, ouais. C'était évidemment...
Atlas, c'est pas Natacha.
Alors Natacha Atlas l'a chanté aussi, mais c'était Françoise Hardy qu'on
voilà.
entendait,
ouais.
Une manière de lui rendre hommage.
Natacha,
et c'est vrai que Natacha Atlas en a une très belle interprétation, ouais. Comme quoi.
Oui.
Voilà.
La transmission
et des histoires qui n'en font qu'une, ouais. Hein, sur le plan culturel aussi. Et c'est cette France-là qu'on aime. On écoute Rachita. La semaine prochaine, vous retrouverez Thierry Gilibeuf à cette même heure. Et toute l'équipe d'Aligre FM réfléchit en silence pour l'instant à la manière de se faire l'écho de ce qui se joue en France, dans ce moment un peu inquiétant.
Ce n'était c'est qu'un répit.
Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, sur la distance. Voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, ils avancent.
It started again. We thought it was all over, but just a pause.
Voila, voila.
We hear it everywhere. The foreigners, they are the cause of all our problems everywhere. In the scrolls. Voila, voila. It started again.
Rien ne commence, tout continue. Soif de justice, agent du tube. Plaignez-vous, mais laissez parler Pépé. Qui sait ce que c'est que vivre par l'épée.
La leçon n'a pas suffi. La leçon n'a pas suffi.
Voilà, voilà, ça commence.
Un pour un pour, c'est un comédien.
Partout, partout, sur la douce France.
Voilà, voilà, ça commence.
C'est un décomincial.
Partout, partout, ils s'avancent.
On connaît la peur de ces flammes.
Voilà, voilà, ça commence.
Voilà, voilà.
Partout, partout, sur la France.
Voilà, voilà,
voilà, voilà, ça commence. Partout, partout, ils s'avancent.
La leçon n'a pas suffi. Faut dire qu'à la mémoire, on a choisi l'oubli.
Dehors, dehors les étrangers. C'est le remède des hommes civilisés.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.